Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a ce matin. Je te prie, Seigneur Dieu, que si on pense être libre, mais on n'est pas libre, Seigneur Dieu, montre-nous, Seigneur, comment on pourrait être rendu libre. Seigneur, je te prie pour ceux qui se sentent captifs, ceux qui se sentent prisonniers, ceux qui entendent des voix dans leur tête parfois. On est dans un monde de chair, mais on est aussi dans un monde spirituel. Tu nous dis par l'apôtre Paul que le combat qu'on livre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Je te prie ce matin que tu ouvres nos yeux, Seigneur, qu'on puisse voir qu'il y a un combat qui a des ténèbres. Même en plein soleil d'été, il y a des ténèbres. Tu appelles ce monde le monde de ténèbres, puis tu appelles le malin le prince des ténèbres. Aide-nous à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse marcher en plein jour, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. OK, donc aujourd'hui, mon sujet, ça va être de parler de la liberté. Donc, on va mettre ça à la première diapositive. Pourquoi est-ce que je veux parler de la liberté? Je veux parler de la liberté parce qu'il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui nous disent que quand on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, moi c'était en 89 que j'ai fait ça, eh bien, on a des versets qui nous disent « Rendez grâce à Dieu ». Au Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La Bible appelle ce monde un monde de ténèbres. Mais ce n'est pas si pire que ça. Ce n'est pas si noir que ça. Pourquoi est-ce que c'est un monde de ténèbres? Bien, Jean, il nous le dit au premier chapitre, il nous dit que Dieu a fait tout par Jésus-Christ, puis en lui était la lumière des hommes, et cette lumière est celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais les hommes n'ont pas voulu recevoir cette lumière-là. Et Jean, plus tard, dans son évangile, il va dire, « Ils ne veulent pas venir à la lumière, car leurs œuvres sont ténèbres. » Et donc, un monde de ténèbres, c'est un monde où il n'y a pas de place pour Jésus-Christ pour éclairer ma vie, pour éclairer le monde, pour que Christ règne sur ma vie ou règne sur le monde. Et plus qu'on avance, plus que c'est un monde de ténèbres, parce que moins le témoignage de Jésus-Christ y est, dans les places publiques. Moi, avant, tu sais, dans les années 50, qu'est-ce qu'on disait? On était gênés de parler de sexualité en public. On parlait de la religion en public. Et aujourd'hui, c'est le contraire, complètement. On ne parle plus des choses de Dieu. Hey, ça, c'est privé, ça. Hey, ça, c'est privé, ça. Tu sais, mais on parle de sexe, mon ami, toi, à la radio, à la télévision, tout ça. Donc, c'est un monde de ténèbres parce que le Fils de Dieu, qui est le créateur des hommes et de la terre, des cieux et de nous, ben, il n'y a pas de place pour briller. Et donc, c'est important de parler de liberté, justement, parce qu'ici, il nous dit qu'on était délivrés, comme si on était prisonniers, puis on était rendus libres pour être transportés dans son royaume. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Puis je me suis arrêté. Dans le livre de 2 Corinthiens, puis c'est comme un peu un hasard, puis vous allez voir pourquoi tantôt. Est-ce que vous êtes libre? Répondez dans votre tête. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit, « Hey, Dieu peut vous libérer par sa vérité. » Bien, ils ont répondu, « On est de la descendance d'Abraham, on n'a jamais été des esclaves de personne. Comment tu peux dire, vous deviendrez libre? » T'sais? Pourquoi tu me dis qu'il faut que je devienne libre? D'abord, est-ce que je suis un esclave? Puis les gens dans Jean chapitre 8, ils vont dire ça. Ils vont dire, on est des gens déjà libres. Tu sais. Eh bien, Jésus va répondre au verset 34, le verset suivant. Il va dire, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus à cette parole-là. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est-ce que la liberté, ça veut dire de faire ce qu'on veut? Oui, c'est de faire ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on se livre au péché et que ce que je veux, c'est le péché, je deviens esclave du péché et c'est ce qui a dominé de moi, ce que je ne peux plus arrêter, qui a pris le contrôle de moi. Et donc, dans Galates, il va dire, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, demeurez donc libre. Et donc, aujourd'hui, je parle à tout le monde, je parle à nous autres qui sommes croyants. On est tous des croyants à certains niveaux. Tu sais, certains d'entre nous, on croit que Dieu a créé le monde. C'est sûr que c'est pas arrivé là comme ça. On a vu dans la nature que Dieu avait montré la trace de sa perfection. Il y en a d'autres qui ont connu l'Évangile puis ont compris qu'est-ce que ça voulait dire, la croix, qu'est-ce qui s'était passé. On est tous rendus à un certain cheminement dans notre foi en ce Dieu-là. Mais pour avoir été libéré des ténèbres, c'est qu'on a compris l'Évangile en Jésus-Christ, mais on peut redevenir esclave. Puis Galates dit au chapitre 5, verset 1, « Christ vous a affranchi pour être libre, restez libre. » Aujourd'hui, j'espère qu'à la fin de mon message, il y a peut-être que tu penses que tu es libre. Puis à un moment donné, une lumière qui va venir, vous écrire, mais je suis esclave, moi, là. Je suis pogné, là. Et ici, je suis pogné dans ce coin-là. Puis qu'à la fin, tu puisses trouver dans ce message-là des angles morts, mais aussi la vérité qui peut venir t'affranchir. Ma question, je vous la répète, est-ce que vous êtes libre? On va dire, ah, j'ai un bon travail, j'ai une famille en santé. On vit dans un pays, c'est le 7e pays dans le monde où ce qu'il fait le mieux vivre. Fait que oui, j'ai des temps pour mes loisirs. Je fais à peu près ce que je veux, quand que je veux, c'est sûr. J'aime ma job, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, puis mon chien, puis mon furet, puis mes cessera. Mais peut-être que vous êtes ici ce matin et vous dites « Non, je ne suis pas libre, je sais que je suis coincé. Il y a des choses que je ne veux pas faire, que je fais, puis il y a des choses que je voudrais faire, que je ne suis pas capable. » Peut-être que vous avez une résistance à vous approcher de la Bible, de la prière ou des choses, de l'obéissance à Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas libre. Aujourd'hui, on va aller dans cette petite canne ici, puis on va aller voir que ça se passe pas loin d'ici, puis ce n'est pas le cerveau, c'est les pensées. Parce que quand que le cerveau va être dans la tombe, nous, on va continuer à réfléchir. Il y a plein de passages dans la Bible qu'il y a des gens qui sont séparés de leur corps puis qu'ils réfléchissent. T'sais. Donc, le programme, les pensées, puis l'ordinateur, le cerveau, on va parler du programme. J'aime ça parler de programme. OK. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de nous amener notre concentration sur le fait que le problème se situe entre mes deux oreilles ici, dans mes pensées. Puis donc le titre de mon message, ça va être « Libre dans la pensée ». Libre dans la pensée. Je vais me fier surtout à 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, qu'on va lire ensemble dans quelques instants. Puis, nos pensées peuvent être prisonnières de mensonges ou des genres de barricades qui se sont montées autour, puis nos pensées sont comme prisonnières, sont captives de faux concepts, des fausses idées qui font qu'on ne peut pas se livrer à Dieu délibérément puis marcher avec lui dans l'obéissance. Et ces pensées-là sont comme des murailles. J'ai pris cette image-là comme mon image de fond. Je trouvais que c'était une belle image d'une muraille qui mes pensées sont empêchées de traverser pour aller obéir à Christ, puis de marcher dans la liberté que Christ a acquis pour moi à la croix. Donc, on va commencer avec le passage d'aujourd'hui. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans ce passage-là, l'apôtre Paul il dit, on est dans un combat. Oui, mais on est dans un pays de paix. On est dans un pays de paix, mais on est dans un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat pour nos pensées. Ce n'est pas un combat dans la chair. Ce n'est pas limité à ce que je vois, ni à ce que j'entends. Il y a des domaines spirituels, ici, dans le passage, qui a des forteresses. Il dit ici, ils appellent des forteresses ou des lieux forts, des lieux où on fait des prisonniers. Puis, Paul dit, on renverse des raisonnements et des choses qui s'élèvent, des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et on amène les pensées qui étaient dans cette prison-là, qui étaient captives dans cette prison-là, on les amène à être rendus libres on les amène à être libres d'obéir à Christ. Okay? Donc, ça, c'est l'image ici qui est donnée. Et on va identifier des domaines spirituels dans lesquels peut-être que vous êtes enfermés, puis vous avez besoin qu'ensemble, on puisse faire tomber ces murailles-là. Okay? Donc, la pensée, ici, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce mot-là, c'est « noema », et c'est 6 fois dans le Nouveau Testament et 4 fois dans 2 Corinthiens. Alors, ça a piqué ma curiosité, puis je suis allé lire un petit peu les différents passages, puis on va regarder les 4 passages dans 2 Corinthiens aujourd'hui. Les pensées qui sont captives, puis qui doivent être conduites à l'obéissance de Christ, c'est « noema ». Ça veut dire « perception », un but, ou ce qu'implique l'intelligence ou une disposition. OK? Donc, il y a une personne qui est captive, c'est une personne qui, dans ses pensées, n'est pas capable de se donner à Dieu complètement et le placer en premier dans sa vie. OK? Elle a des perceptions ou des buts dans sa vie qui impliquent l'intelligence ou ses dispositions, qui sont prisonnières dans une forteresse d'un raisonnement qui va à l'encontre de marcher avec Dieu, qui va à l'encontre de faire ce que Dieu veut pour ma vie. Et à cause de ça, je suis emprisonné. Et ces forteresses-là, c'est des mécanismes de défense qu'on a appris depuis qu'on est dans la jeune enfance, à propos de Dieu, à propos de nous-mêmes ou à propos du monde. Mais c'est des mensonges qu'on a entendus avant qu'on vienne à Christ pour avoir la liberté, qui sont encore là. Que Dieu est un Père aimant et un puissant sauveur, qui est un abri certain en temps de détresse, qui est celui qui peut combler nos cœurs. Et ces mensonges-là, puisqu'on les a, on n'a pas eu les vérités quand on était plus jeune, on a grandi un peu comme des orphelins. Puis on est venu à Dieu, mais on peut encore, en tant que croyant, avoir ces forteresses-là. Et Paul, lorsqu'il dit qu'il renverse des forteresses, il parle dans une situation où il y a du ménage à faire dans l'Église. Il ne parle pas de ce qui se passe en dehors, il parle de ce qui se passe en dedans. Et donc, la forteresse, tant qu'elle va être debout, elle va être composée de raisonnements qui ne sont pas abattus, les pensées vont rester captives, puis la personne ne va pas obéir à Dieu. Donc, comme je disais, le mot « noema » est utilisé à 4 reprises dans le livre de 2 Corinthiens. Je vais en amener un. Dans le fond, dans 2:11, c'est écrit « de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Le mot pour « dessein », c'est le même mot que « penser ». C'est pour ça que ça se rapprochait d'un but, ou ce qu'implique l'intelligence ou une disposition, mais il y a l'idée d'avoir un but. Une pensée orientée vers un but. Quel est son but, l'adversaire? Une chose est sûre, son but, peu importe c'est quoi, il n'est pas conforme à celui de Dieu. Hein? C'est l'adversaire, on l'appelle le diable. Et donc, la définition du péché, une des définitions, armatia en grec, ça veut dire manquer le but. Mais le diable, quand il arrive là, dans nos vies, là, puis qu'il essaie de nous faire sortir du but de Dieu dans notre vie, il vient pas nous dire, hey, viens, je vais te faire manquer la course. Viens ici, je vais te péter ta vie. Il vient nous offrir des buts qui ont de l'air beaucoup plus attrayants que de marcher avec Dieu. Et en suivant ce nouveau but-là, je peux être en train littéralement de sortir du but pour lequel je suis sur la terre parce que je veux en poursuivre un autre. Donc, ce qui est puissant dans la tentation, c'est que c'est précieux pour nous. Et ça va nous apporter un grand bien, on pense. Et donc, on va suivre un projet. On a un projet personnel. On a une poursuite, une passion. Mais cette passion-là va nous faire manquer le but pour lequel j'ai été placé sur la terre. Donc, péché ne veut pas juste dire transgresser. Elle veut juste dire de ne pas atteindre le but, pas atteindre la marque, pas aller là où je serais supposé d'aller. Péché en pensée, donc, ça implique de viser un autre but que celui que Dieu a pour ma vie. Quand Jésus nous montre dans les évangiles, le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu est semblable. Il donne, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a fait une invitation pour un grand festin. Et on sait cette histoire-là, chacun commençait à s'excuser les uns et les autres en disant, je m'excuse, mais j'ai ceci, et je m'excuse, mais j'ai cela. Et chacun avait un but, chacun avait un projet, chacun avait quelque chose qui était plus important que d'aller dans ce festin-là. Jésus nous montre donc que par ces projets-là, par ces buts-là, en fait, celui-là qui fallait qu'il travaille sur son tracteur, l'autre qui fallait qu'il marie ses enfants, l'autre qui fallait qu'il gère son deuil. Chacun avait comme toutes des bonnes raisons. C'était pas des choses mauvaises, c'était pas, mais c'était juste que c'était pas placé dans le bon ordre. Puis ça excusait la personne de faire ce qu'elle était appelée à faire. OK? Donc, le dessein du malin dans ce passage-là, c'est de piéger les gens de toutes sortes de manières. La Bible a dit que quand on est jeune croyant, on ne va pas discerner facilement les pièges du malin, mais on va se faire entrer souvent dans un piège. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit un jeune prédicateur, que ce soit quelqu'un que ça fasse juste quelques années qu'il soit chrétien pour devenir un prédicateur. Il y a des gens, dans 1 Timothée 2,16, c'est écrit qu'il y a des gens qui sont piégés par le malin au point qu'il leur fait faire toutes ses volontés. Puis Jean, il dit, quand tu vas parler avec ce frère-là, parle-y avec douceur pour essayer de le dépiéger, pour qu'il revienne à son bon sens, puis qu'il réalise qu'il était tombé dans le piège du malin. Donc, le dessein du malin, c'est de nous piéger de toutes sortes de façons. Puis c'est pas qu'on va être immobile dans un piège, c'est qu'on va être dans un autre chemin. On va voir un peu qu'est-ce que c'est. Chacun croit que son but est valable pour ne pas répondre à l'invitation du grand festin. L'invitation d'obéir à Dieu doit être placée avant tous les autres buts dans ma vie. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Mes pensées vont être orientées vers un autre but et éventuellement, je vais avoir développé une nouvelle trail dans laquelle je vais dire, ça fait si longtemps que je marche là-dedans que c'est ça le but de ma vie. J'ai fait déjà un trop long bout de chemin pour aller dans la voie du Seigneur. Et donc, ça devient un genre de forteresse qui dit, ben garde, j'ai pas préféré les voies du Seigneur à mes voies, puis ça fait trop longtemps que c'est comme ça. Donc, comme on est piégé de revenir alors qu'on peut revenir n'importe quand. Dans Proverbe 16, au verset 1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. C'est-à-dire, quand nous autres, on regarde tout ce qu'on fait, on trouve que c'est tout bien correct, qu'est-ce qu'on fait. Hein? Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Dans l'Église, à 2 Corinthiens, il y a un gars qui couchait avec sa belle-mère. C'était de l'immoralité. Et puis, il fallait... Là, ce gars-là, il l'avait averti. Après ça, il avait dit au frère de ne pas manger avec, de le laisser un petit peu comme réfléchir, si on peut dire. Puis le gars, il avait réalisé son péché, il s'était repenti. Ça, c'était dans 1 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, il était revenu. Puis là, Paul, il dit, là maintenant, ce qu'il faut faire, là, c'est d'accueillir un tel frère pour pas que Satan profite de ça. Parce qu'on n'ignore pas ses desseins. On ne veut pas donner l'avantage. Et c'est là, ça, c'est le contexte. Hein, il s'était repenti. Dans l'Église, il y avait peut-être des gens qui étaient frustrés de ça, puis ils ne voulaient juste pas pardonner. Le manque de pardon donne un avantage. Puis le mot ici pour avantage, c'est un avantage militaire. C'était utilisé lorsqu'une armée arrivait sur une plage, puis elle établissait son quartier d'opération. Fait qu'il dit, écoutez, là, dans l'Église, il faut qu'il y ait du pardon, il faut qu'il y ait, dans les relations, qu'il y ait de la grâce, du pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une confession, il y a eu une admission de tort, puis il y a eu pardon. Alors, qu'est-ce qui aurait arrivé si l'Église n'aurait pas fait ce que Dieu demande à ce moment-là, parce qu'ils sont blessés, parce que ça a ramené une station militaire dans laquelle Satan aurait dit, ici, je peux mettre le bordel dans cette Église-là. Parce qu'ils manquent du pardon, parce qu'ils ne font pas ce que Dieu leur demande, ils ont un autre projet. Donc, dans nos vies, s'il y a un manque de pardon, c'est un endroit où le malin peut venir jouer dans ça, dans cette amertume-là, et puis il peut ramener un avantage militaire sur votre vie et sur vos pensées pour vous garder emprisonné, parce que vous êtes prisonnier de votre passé, vous avez de la misère à aller vers l'avant dans le futur, parce que lui ramène ça dans le passé. Puis la pensée n'est pas dirigée vers Dieu, ce que Dieu peut faire dans la situation, mais vers un autre but. J'amène donc ce point-là à ce stade de mon message. Les priorités. Les mauvaises priorités sont un outil très puissant dans les mains du malin, dans le combat spirituel, pour égarer un homme, une femme, du plan que Dieu a pour sa vie. Celui qui veut nous faire sortir de la voie, VOIE, de Dieu, Il ne vient pas comme un ennemi. Je vous rappelle, Satan, il va vouloir que tu suives ton propre cœur. Il va vouloir que tu suives tes propres passions et tes propres buts. Les buts qu'on s'est fixés qui ne sont pas en ligne avec l'obéissance à Dieu. Ici, je ne dis pas que ça ne prend pas de passion dans la vie. Moi, je pense qu'on devrait être les gens qui sont les plus passionnés. Puis, quand on fait passer Dieu ensemble, en premier, on a le temps pour toutes nos autres passions. J'aime voir qu'on aime la vie, qu'on profite de la création. Je veux dire, Dieu, il a créé le monde en six jours, le septième s'est reposé. C'est pas parce qu'il était fatigué, c'est parce qu'il voulait prendre plaisir dans la création. Et c'est beau une personne qui prend plaisir dans la création, puis qui aime la pêche, la chasse, n'importe quoi. Mais quand c'est le temps des rassemblements, c'est le temps des rassemblements. Quand c'est le temps de dire, hey, c'est quoi que Dieu veut me dire aujourd'hui pour que je puisse marcher dans son obéissance, je le place en premier, tu sais. Fait que Dieu, il ne nous demande pas de sacrifier puis qu'on se donne, nous autres, le chenou, là, nos murs sont blancs, il ne faut pas trop avoir d'émotions, tu sais. On mange toujours de la soupe Lipton, puis il faut se coucher à 8 heures, tu sais, parce que sinon on va pécher, tu sais. Puis tout le monde, les filles sont en jupe, puis non, au contraire, on devrait profiter de nos passions puis se réjouir dans la création. Mais le problème, c'est que quand on met les priorités d'eux, qui est avoir du plaisir dans la création, on les met en premier, le numéro un, il ne passe jamais. Si tu mets toutes les priorités d'eux en premier dans ta vie, tu ne feras jamais la priorité numéro un, qui est de faire de celui pour qui Christ est mort pour moi, afin que aussi je puisse vivre pour lui. Donc le malin, lui, va amener plein d'opportunités, des projets, tout ça. Ce n'est pas les projets qui sont mauvais, c'est l'ordre des projets qui sont mauvais. Dans Éphésiens, au chapitre 2, il nous est dit que nous marchions autrefois selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et on accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées. C'est correct, ça, faire qu'est-ce qu'on aime? Bien, selon ce passage-là, ici, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de place pour Dieu, pour faire qu'est-ce que Dieu voulait. Alors, il dit que marcher selon le prince de la puissance de l'air, c'est un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. La rébellion, c'est l'homme qui ne veut pas servir son créateur, qui ne veut pas dire, hey, Seigneur, tu as dit qu'il fallait choisir un disciple, OK, ça commence où? Une église locale. Après ça, bien, il faut que tu apprennes dans les Écritures à obéir à tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Puis après ça, bien, tu vas voir qu'il a prescrit le baptême, puis c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Il va, tu sais, tu vas comprendre plein d'affaires, puis à chaque fois, tu vas être placé devant une décision de dire, est-ce que je veux que Christ règne sur ma vie? Puis là, ici, le problème, c'est que la rébellion, elle offre à l'ennemi d'agir. Hein? Donc, moi, je ne veux pas des voies de Dieu, donc ça permet à une plateforme démoniaque, si on peut dire, de dominer sur moi, sur mes choix. Puis pourtant, c'est juste de suivre notre propre chair. Ça n'a pas de l'air que, tu sais, quand on regarde juste comme à la vue, les gens font ce qui leur plaît, tu sais. OK. Le malin ici est appelé le prince de la puissance de l'air. Il agit dans l'atmosphère. Oui, c'est ça. Lui, sa cohorte n'a pas besoin d'un canal vie. Il a juste besoin d'un canal chair. Puis le canal chair, c'est un circuit publicitaire qui roule 24/7. Et ce qui nous est offert sur ce canal-là, c'est de faire tout ce qui nous tente sans regard à ce qui est vrai, bien et permis. D'ailleurs, on est dans un âge aujourd'hui où c'est plus ce qui est vrai et faux. Ça date de 100 ans, ça, que les gens disaient, il y a quelque chose qui est vrai puis quelque chose qui est faux. Dans le dernier siècle, c'était, est-ce que c'est vrai pour toi? Ben fais-le parce que c'est vrai pour toi. L'autre, c'est vrai pour toi. Ben, tu sais, agis dans un système de valeurs que si tu sais que c'est mal, ben fais-le pas. Mais tu sais, fais-le par rapport à ce que toi, tu sais. Fait qu'il y a ta vérité, la vérité. Maintenant, on est rendu dans un monde où c'est plus est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, c'est est-ce que j'ai le goût ou j'ai pas le goût. Est-ce que c'est ma préférence? Moi, je suis un gars, je suis né un gars. Est-ce que je veux être un gars ou ben non, je veux être une fille? Tout est basé sur qu'est-ce que je désire. C'est mal, oui, mais même si c'est mal, c'est ça que je veux. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est ça que je veux? Exactement. Et donc, on voit qu'il y a, ces absolus ont disparu. Donc, cette publicité-là, 24/7, les projets, les buts, ils ont l'apparence de nous donner une plus grande liberté, un bel arbre qui est précieux pour m'ouvrir mon intelligence et qui va sûrement me faire du bien. Et là, pendant que je me fais offrir un monde sur un plateau d'argent, le prince de ce monde, qui est appelé le prince de ce monde par Jésus, il est capable d'offrir à Jésus aussi tous les royaumes de la terre à Jésus lorsqu'il était tenté dans le désert. Il a dit, prosterne-toi, puis je vais te donner tous les royaumes de la terre. Hein? On devient prisonnier d'avoir préféré notre vie, nos projets, nos plans. Et quand là, Dieu dit, hey, je veux que tu m'obéisses, on est là. C'est parce que je ne peux pas avoir deux maîtres. Je suis le maître de ma vie, je ne peux pas. Fait que là, ça fait un clash ici. Et ça fait une forteresse dans laquelle il y a quelque chose qui doit se passer. On devient prisonnier des préférences de nos vies, de nos projets et de nos plans. Les desseins de l'ennemi sont multiples. En plus de pousser l'homme dans des buts qui ont l'apparence de liberté, il accède à notre intelligence. Prochain point. 4.4. Les incrédules, ça c'est la personne qui n'a pas cru à la révélation générale, ou précise, là, qui est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, mais quelqu'un qui n'a pas cru, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile. Dans ce passage-là, ici, il est appelé le Dieu de ce siècle. C'est écrit qu'il a accès à mon intelligence pour rendre aveugle, comme si mon intelligence avait des yeux. Il la rend aveugle pour pas que je voie la lumière de celui qui éclaire tout homme. Hein? Pour pas que je voie la splendeur de l'Évangile de Jésus-Christ qui est la gloire de l'image de Dieu. C'est ce que le passage dit. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'une personne qui est exposée à la révélation de Dieu la voit, mais ne le croit pas, refuse de placer sa confiance dans l'Évangile, il y a encore une fois un terrain d'accès à cause de l'incroyance, ça rend le cœur aveugle, ça rend l'intellect aveugle. Ça veut dire que, puis dans le passage, le prochain, on va lire, c'est que à cause qu'ils n'ont pas cru, sont devenus, ça crée un endurcissement. Donc, pas placer sa confiance en Dieu quand on comprend sa révélation, ça rend le cœur ouvert à l'activité spirituelle, c'est-à-dire que Jésus, pour nous dire, hey, le royaume de Dieu est semblable à un semeur qui est sorti pour semer. Puis pas longtemps, tu vois le monde qui est en train d'agir sur ce cœur-là, que le cœur, c'est comme le cœur qui reçoit la parole. Pas longtemps, dans la parabole, tu vois le monde qui vient agir, les soucis du monde, c'est comme des épines qui viennent autour du jeune plant. Mais aussi, il y a pas longtemps, dans la parabole, il y a les oiseaux du ciel qui sont attentifs quand c'est semé. Pourquoi? Lunch time. Fait que les autres s'en vont puis attendent juste que le semeur passe puis ils viennent chercher qu'est-ce qui a été semé. Et Satan est à l'affût puis Jésus dit les oiseaux du ciel ce sont les démons. Il va donner l'explication dans Luc. Donc c'est pas vrai que quand on place pas notre confiance dans la révélation que Dieu nous a donnée que c'est juste comme reporter à plus tard. Je crierai à ça mais que je sois vieux, tu sais. À un moment donné, tu sais, j'en aurai besoin quand que ça sera le temps de partir dans l'éternité, tu sais. Mais c'est pas vrai parce que, dans le fond, si mon cœur se ferme à l'Évangile, les oiseaux du ciel, ils voient que les semences sont restées ici, sur le dessus, fait qu'ils viennent les chercher. Puis le texte nous dit que il peut aveugler l'intelligence pour pas qu'il la voie. Fait que quand le messager va revenir dans ma vie, moi, mon cœur va s'être refermé d'ici ce temps-là. Puis l'Évangile va avoir de l'air encore plus âpre, encore moins illuminé. Simplement parce que je vais avoir accepté un voile qui est placé sur mon intelligence parce que j'ai refusé de croire. Et là, il y a une activité spirituelle qui grandit. Je vous l'ai dit au début, c'est un combat contre la pensée. Puis on partage la terre avec des anges déchus qu'on ne voit pas. Fait qu'il faut juste comme se rappeler des fois quand on marche sur notre propre gaz qu'il y a une lutte contre nos pensées. Dans 3.14, c'est écrit « Ils sont devenus durs d'entendement ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas toujours été. Ça veut dire qu'une personne peut avoir un cœur tendre pour la bonne nouvelle, l'Évangile, pour l'obéissance avec Dieu. Il peut avoir eu un temps dans ma vie où j'étais plus disposé à marcher avec Dieu, puis ce cœur-là s'est endurci. Hein? Et donc, ça n'a pas toujours été comme ça, et c'est une insensibilité grandissante parce que j'ai un entendement qui ne se met pas d'accord avec Dieu et sur les définitions de ce que lui y amène dans sa parole. Notre rôle à nous, en tant qu'humains, c'est d'homologuer la vérité. Homologuer, ça veut dire la même chose que. Hein? Et c'est le processus de la repentance. Et là, j'amène à un autre point qui est important dans ces forteresses-là. Les forteresses sont composées de mensonges que j'ai cru à propos de Dieu, à propos de moi ou à propos du monde, qui ne sont pas des vérités qui viennent de la parole. Bien, la repentance, ça veut dire de dire la même chose que Dieu dans ma vie. Ça veut dire que je vais découvrir des mensonges, plus que je vais m'exposer à la parole, plus que je vais prendre des cours, plus que je vais lire la Bible, plus que je vais trouver que j'ai des mensonges que j'ai cru une partie de ma vie. Et mon rôle à moi, c'est de détecter le mensonge puis de choisir de croire ce qui est vrai. La Bible nous dit dans Romains 12, au verset 1 à 2, de se livrer nos corps à Dieu puis d'offrir nos pensées à Dieu pour qu'elles soient renouvelées. Un peu comme quand on fait un backwash de piscine. On voit l'eau brune sortir au début. Ça fait du bien. Après ça, moi, tu sais, cet été, Steph s'est acheté un petit aspirateur avec un moteur, mais moi, je savais que c'était le problème. C'était pas notre aspirateur, ni notre pompe qui n'était pas assez forte. C'était le sable qui était saturé. Tu avais beau le backwasher, il fallait le remplacer. Puis c'est dur à sortir ça. C'est du gravier. C'est de la roche. C'était tout graffiné. Hein? C'est pesant en crime, hein? Il y en avait deux, parce que justement, je remplaçais à la place de le roulet. Puis, ben là, je l'ai vidé, puis finalement, j'ai remis les capteurs trop haut. Fait qu'il restait un jour de ça. J'étais obligé de ressortir toute la roche une deuxième fois. Bon, c'est de la job, mais bon, il faut remplacer le gravier, si on peut dire ici. Là. Il faut régulièrement faire examiner et dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que je pense? Si c'est pas vrai, bien, qu'il faut que je prenne ce qui est vrai, puis je le dis, je le confesse, puis que je choisisse de croire ça. Dans Philippiens 4, c'est un des cinquièmes versets, Philippiens 4, 7, c'est écrit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées, et la paix de Christ gardera vos cœurs et vos. Le mot qui est noia, je ne sais pas, c'est quoi le. Noéma. Il gardera votre noéma dans vos buts. Vos pensées, votre intellect, dans la paix de Dieu, vous garderez ça en Jésus-Christ. Donc, la repentance, c'est important d'avoir la parole régulièrement, de la lire, si possible, à chaque jour, parce que c'est un miroir. Jacques nous dit que quand on lit la parole, c'est une parole de liberté. Pourquoi? Parce que plus que je me vois dans mes visages, je vois mon visage naturel, plus que je vois des choses qui ne sont pas des vérités, puis là, je les laisse aller. Puis ça me fait du bien, je marche dans la liberté. Puis je me mets à l'action, puis j'obéis à ce que je lis. Le péché a le pouvoir d'endurcir. Le passage, je vous lis un autre passage dans Éphésiens. C'est au chapitre 4, verset 17. « Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. » À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sentiment et se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Paul, il est rendu au chapitre 4 dans Éphésiens, puis il leur dit, marchez pas comme des gens qui ont la tête vide. On pourrait juste résumer ça comme ça. Les gens dans le monde, ils marchent avec une tête vide, ils savent pas qu'est-ce que Dieu s'attend de eux, puis ils ont une intelligence obscurcie comme si c'était rendu aveugle. Ils sont étrangers à la vie de Dieu parce qu'ils ont de l'ignorance dans le cœur. Hein? Et il nous est dit de ne pas marcher comme ça. Donc, on est recommandé de ne pas suivre les idées qui viennent de pensées qui sont vides. Donc, c'est important de se faire le plein, régulièrement de faire le plein avec la parole de Dieu, de la lire. Si vous ne pouvez pas la lire parce que pour quelconque raison, écoutez-la. Et mettez-la en audio, il y a Internet à cette heure, on a tellement accès à ça. Mais de ne pas suivre votre tête vide. Une tête vide, c'est une tête dans laquelle toutes sortes d'idées peuvent apparaître. Dans le monde que j'ai décrit aujourd'hui, un monde spirituel, c'est un monde dans lequel toutes sortes d'idées, les idées du monde, puis les idées qui peuvent être mises dans notre tête par notre adversaire. Donc, l'ignorance est là parce qu'ils ont endurci leur cœur. Donc, c'est un manque de repentance. C'est un gros problème. Le problème d'un chrétien qui ne se met plus d'accord avec Dieu, qui ne confesse pas ses péchés à date, puis il dit pas, il appelle pas noir ce que Dieu appelle noir, puis blanc, qu'est-ce que Dieu appelle blanc. Il commence à avoir un manque de repentance et il va avoir dans son cœur un genre d'endurcissement de cœur, puis il va avoir des pensées qui sont vides. Puis le passage que je viens de lire, il est intéressant, il dit « Ils ont perdu toute sensibilité. » Ça, c'est comme la main à Sylvain ou à Patrick, ou tu sais, là, à force de travailler avec les mains, on devient tout cornu, hein? Ouais, moi, quand j'ai de la corne, c'est un mouton, il est bien précis, je l'arrache. Moi, c'est le reste, c'est tout. En fait, c'est des blessures que j'ai, moi. Mais c'est ça, ils ont perdu tout sens, toute sensibilité. C'est quand un chrétien qui, à un moment donné, là, dans le fond, à force de se frotter à une pensée vide puis à vivre selon ses propres pensées vides, il commence à se comporter comme un non-croyant, il fait la même affaire que lui. Puis à un moment, moi, je le sens, là, je sens tous les grains du bois parce que j'ai des doigts de programmeur. Hein? Mais tu sais, Sylvain, lui, il ne sentirait rien. Hein? Je veux dire, ça serait juste comme... ça semblerait peut-être même le bois. Hein? Hop, avec sa joue? Même avec sa joue. Donc, ayant perdu tout sentiment, ça veut dire qu'il y était un temps où ces gens-là avaient des sentiments. Puis à force de voir la vérité puis de ne pas dire la vérité, à force de voir la pensée de Dieu puis de ne pas l'accepter, de ne pas avoir le processus de repentance qui vient avec, il y arrive une place où, à force de se frotter au péché, on ne dit plus la même chose que Dieu et on perd le sentiment même qu'on était contre Dieu dans ces pensées-là. Et puis, on est libre. Hey, on est libre. On n'a personne pour nous dire quoi faire. T'sais. Mais en fait, est-ce que c'est ça, être libre? Parce que je ne suis pas capable d'obéir à mon Créateur puis de laisser toutes ces choses-là qui ont rempli ma vie. Fait que, suis-tu vraiment libre? Ou bien non, je suis devenu dans ma prison de liberté, c'est-à-dire faire tout ce que je veux, mais pas placer Dieu en premier. Le quatrième passage, il dit que... c'est-tu le quatrième? Ah, c'est celui-là ici. Paul s'inquiétait pour les Corinthiens, puis il dit, « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Paul, il avait peur que chez les Corinthiens, le malin ait passé, puis les a corrompus comment? Qu'est-ce que Ève, il l'a corrompu? Qu'est-ce qu'il a corrompu? Elle a vu qu'il y avait un arbre qui était utile et précieux pour lui ouvrir l'intelligence, puis qui avait de l'air agréable à la vue. C'est la convoitise. Une vie plus attrayante que celle que Dieu t'offre. Si tu penses qu'il y a quelque chose d'autre que de vivre pour Christ, qui est plus attrayant, tu es dans une prison. Satan, c'est un menteur. Il nous ment à propos de Dieu. Il nous dit que si on lit la Bible et on commence à regarder ce livre-là, qu'on va être les plus misérables des hommes et on va devenir ses esclaves. Comme. Alors que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour qu'on puisse avoir la vie et qu'on l'ait en abondance. Le malin, il essaie de nous faire croire dans notre entendement par la ruse. Hey, Dieu, as-tu vraiment dit que tu ne mangerais pas de tous les arbres? Tu sais, puis il a commencé à dire, ben non, tu sais bien que Dieu te cache quelque chose, que Dieu te garde quelque chose. Tu sais bien que si tu te donnes à lui complètement, puis tu oublies juste à sa consigne, qu'il te prive de quelque chose. Hey, c'est vraiment un mensonge, c'est une tour forte. Je vous dis, c'est la tour la plus forte présentement qui existe au Québec, en tout cas en Amérique du Nord. Moi, je ne vis pas ailleurs dans le monde, mais c'est la tour la plus forte. Parce que les gens, ils pensent que s'ils vont venir à l'église, il va falloir qu'il n'y ait plus de loisirs, qu'ils soient obligés de parler en avant, qu'ils donnent leur argent. Ils vont perdre toute leur liberté. Hein? Et donc, c'est exactement là. Une vie plus attrayante que celle que Dieu m'offre me déconcentre d'avoir été béni de toute bénédiction en Jésus. Dans Éphésiens, au chapitre 3, c'est écrit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction. À Éphésiens 1, 3. En Jésus-Christ. Il a caché toute bénédiction dans le Seigneur. Il dit qu'il vous détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Pourquoi? Parce qu'en ayant un regard simple sur Christ, en plaçant Christ comme étant le premier, parce qu'il n'y a pas deux choses qui peuvent être premières dans ma vie, en plaçant Christ comme étant le premier dans ma vie, je vais avoir tout. Il va prendre soin de moi. Il est un père aimant. Il est un rocher solide, je l'ai dit au début de mon message. Puis il va avoir une vie abondante avec le Seigneur. le livre d'Éphésiens nous dit que le vieil homme, c'est la vieille personne que j'ai, la personne que j'étais avant de connaître Christ, se corrompt lui-même par ses propres convoitises. Et donc, on arrive à cet endroit-là où les forteresses, j'ai même pas besoin du diable pour me mettre dedans, je me mets dedans moi-même. À force de penser que le péché est plus attrayant que d'attendre pour être comblé dans mon besoin. À chaque fois que je pense que la vie est ici et maintenant, au lieu de penser aussi à mon éternité quand je fais mes choix. À force de penser de même, je me corromps moi-même par mes convoitises. Quel est le remède pour la convoitise? On a parlé de la psychologie hier, on marchait les hommes ensemble au camping. C'est-tu bon la psychologie? Je pense que la psychologie a fait un bout parce que c'est l'homme séparé d'avec Dieu qui essaie d'étudier l'homme qui est séparé d'avec Dieu. Fait qu'on essaie de comprendre comment ça marche cette histoire-là, là, d'être dans un monde déchu puis d'essayer de survivre. Tu sais. Puis là, on regarde notre enfance, on regarde ce qu'on a vécu avant. Tu sais. On essaie de voir comment on... Puis il y a des centres de thérapie où ils vont pratiquer le principe que Jésus nous a enseigné. Si ta main est pour toi une occasion de chute, je coupe-la puis jette-la loin de toi. Bon, Jésus ne voulait pas qu'on coupe notre main littéralement ou que ton œil est une occasion de chute, arrache-la puis jette-la loin de toi. Mais des centres de thérapie où, dans le fond, on écoute, non, tu ne consommeras pas, là. Désolé. On va remplacer par d'autres choses, mais tu ne consommeras pas. On va boire à pas. Puis tu vas être 24/7 avec nous autres jusqu'à temps que tu arrêtes de consommer. Il y a des thérapies comme ça, tu sais, pour toutes sortes de moyens où ce que le remède à la convoitise, c'est d'arrêter. Ça a de l'air simple à dire comme ça. Mais dans Galates, c'est écrit, 6:18, c'est écrit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il y a quelque chose qui arrive, c'est qu'à chaque fois que je nourris, c'est comme si j'avais un colocataire qui habite chez moi, son influence n'est pas bonne, puis dans le fond, à chaque fois que je le nourris, je le renforcis, puis moi, quand je passe à l'épicerie, je fais toujours du stock pour lui. Bien, une personne qui garde des occasions de péché dans sa vie, c'est une personne qui, de plus en plus, se monte une muraille qui lui fait croire que sa vie est bien meilleure que celle que Dieu lui avait offerte. Donc, c'est quoi le remède pour cette muraille-là? C'est de dire, OK, mon Dieu, c'est mon berger. Je n'irai pas dans la désobéissance. Je vais attendre de voir comment il va prendre soin de moi dans cette situation-là. Puis là, tu fais confiance à Dieu dans ça. Ça veut dire de ne pas faire des provisions pour une personne qui habiterait chez toi. La convoitise, elle nous enferme petit à petit dans une prison qui nous dit que la vie est plate avec Dieu. Et que la vie dans le monde est à envier. Parfois, c'est triste, mais il y a des enfants qui ont grandi dans des familles chrétiennes qui n'ont pas goûté comment le Seigneur était bon, puis ils veulent aller visiter le monde. Hein? Puis ça nous attriste, mais en même temps, on revient du monde. Moi, je reviens du monde. Ça m'a laissé vide. Puis j'ai trouvé mon Seigneur Jésus à l'âge de 17 ans. Bon, je vois les gens sortir. Ils reviennent de l'autoroute, mais dans l'autre sens. Tu sais, je dis, Colin, tu sais. Bon. Fait que là, il faut être patient. Mais t'entends souvent, je ne veux pas placer Dieu en premier. Ah oui? Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire ce que je veux. OK. Est-ce que Dieu, c'est juste un Dieu d'interdiction? As-tu goûté comment le Seigneur est bon? As-tu demandé? As-tu demandé comment le Seigneur était bon pour que tu sois tellement béni que tu sois prêt à lâcher à peu près n'importe quoi? Non. Mais je veux le quitter parce que là, tu t'aperçois que dans le cœur de ce jeune-là, de cette jeune fille-là, d'après moi, il manque quelque chose en Dieu. D'après moi, il manque quelque chose. On dirait que le serpent, il vient dans la tête puis il vient corrompre la pensée en disant, il manque quelque chose. Mais c'est sûr qu'il va toujours manquer quelque chose parce qu'on est dans un monde déchu. Il va toujours manquer quelque chose. On ne sera pas totalement à la maison ici. Mais on devient de plus en plus qu'on nourrit ces convoitises-là, on est enfermé de petit à petit dans une prison qui nous dit que la vie est plate avec Dieu et que la vie dans le monde est en vie. Comme je vous disais au début de mon message, puis j'arrive pas loin, je vais vous donner deux illustrations dans la Bible, puis après ça, on va avoir fait le tour. On va illustrer ça pratiquement. Comme je disais, le monde présentement est corrompu. est corrompu parce qu'il n'y a même plus d'absolu. C'est juste qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je préfère. Et ça, c'est vraiment comme c'est une corruption incroyable. Et je pense que c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des disciples qui vont dire, « OK, moi, c'est pas ce que je veux, qu'est-ce que Dieu veut? Hein? » La Bible a dit, « La chair a des désirs à ceux de l'esprit sont contraires, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. » Le chemin d'être un disciple de Jésus-Christ, c'est d'arrêter de répondre à cet enfant qui dit, « Je vais manger, je vais manger! » OK, tu sais, là, la première fois que tu dis non, là, puis tu dis, « C'est pas le temps, là. » Puis là, il commence à pitcher du spaghetti sur le mur, puis tu dis, « T'auras pas de dessert, tu sais. » Puis, il lance son mangeur. Ça va être sale, mais c'est non. Bien, c'est exactement ce qu'il faut qu'on apprenne à faire avec la chair. C'est d'être capable de ne pas faire qu'est-ce qu'on veut. Puis de dire, « Non. » Je pense pas que je dois faire tout ce que je veux. C'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit afin que je ne fasse pas ce que je veux. OK, on va revoir notre passage d'aujourd'hui. On renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais vous donner deux petites histoires. Le ministère de la parole, aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est ce que je fais à chaque fois que j'évangélise, puis quelqu'un ne trouve pas que ça vaut la peine quand vous faites ça. Quand vous évangélisez quelqu'un, puis la personne ne trouve pas que ça vaut la peine de marcher avec Dieu ou de croire en Dieu ou de donner sa vie à Dieu, vous le faites naturellement. Vous êtes là, puis vous essayez de lui montrer que ça vaut la peine de croire en Jésus-Christ, qui est le Créateur, puis le Sauveur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On renverse des murailles qui se sont élevées qui fait que la personne ne peut pas aller à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On comprend le ministère de la parole. C'est comme aujourd'hui, là, on a compris qu'il y a certains mécanismes dans notre tête, dans nos pensées, qui nous rendent captifs, qui nous empêchent d'être libres. Puis les histoires, je vais vous en donner deux, des histoires de personnes qui ont des projets ou des idées. Puis, on pense par exemple à David. David dit, un Chronique, chapitre 21. « Hey, mon armée est puissante en crime. On gagne les batailles de l'Éternel. On est vraiment puissant. Je vais faire un dénombrement de tous mes soldats, de tous mes fantassins, de combien j'ai de chevaux de bataille. » Et là, il dit, « Je vais dénombrer mon armée pour savoir. » Il ne dit pas de même, mais tu sais, on voit que ça ressemble à ça. Et le texte, au verset 1, nous dit, « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Moi, David, il a un projet, c'est de voir comment il est famous. Son caporal de guerre, Joab, son chef en chef, comment on dit ça donc? Son général en chef, il dit, « Hey, tu ne devrais pas faire ça, Dieu va te multiplier 100 fois encore, qu'est-ce que tu es là? » Il est en train de se dire, c'est, « Ton cœur va s'enorgueillir, fais pas ça. » Puis, donc ça, c'est intéressant. Il dénombre, il veut dénombrer. Puis le texte biblique nous montre la scène en arrière. Lui, il a juste un projet, c'est de voir comment son armée est grande. Hein? La Bible, lorsqu'on la lit, elle nous permet de faire la différence entre ce qui se passe dans le monde spirituel puis les bons projets qu'on a ou les bonnes idées qu'on a. Et on voit qu'ici que c'est le jour puis la nuit entre les deux. Dans les Proverbes, c'est écrit « Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice et de droiture, pour avoir du discernement, au jeune homme donner de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. » Proverbe 1:1-5. Donc, quand on lit la parole, qu'est-ce qu'elle a le pouvoir de faire? Elle nous dit « Hey, t'es pas juste dans un monde de chair et de sang. Tu n'es pas juste dans un monde où ce que on vit, puis un jour on va mourir, puis c'est fini. Il y a une éternité, il y a un monde invisible, il y a des anges, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a l'Évangile de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ça, c'est la Bible qui nous, comme dit, « Hey, OK, je n'ai pas juste le pain, je ne vivrai pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, puis je vais comprendre les paroles, je vais avoir du discernement, je vais être capable de voir qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire dans les choix de ma vie. » Et David, même s'il a une bonne idée, on voit qu'il ne pense pas toujours comme ça, parce que dans les psaumes, il a écrit « Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Fait qu'on voit que David, je ne sais pas s'il écrit ça avant ou après, mais il est arrivé à ce discernement-là ici. Fait que c'est une bulle qui a passé. Mais cette bulle-là, comment savoir si la bulle qui passe, c'est un bon projet, si c'est une bonne chose, si c'est une bonne opportunité pour moi? Hein? C'est de lire la parole puis de recevoir l'enseignement régulièrement. Il a perdu 70 000 hommes avec cette bonne idée-là. Il y a 70 000 hommes. Et il y a eu un sacrifice qui a été fait pour le pardon de ce péché-là. Puis le sacrifice a été fait sur la terre d'Ornan, qui se trouverait exactement à l'endroit où le temple de Jérusalem, après ça, a été établi. Puis c'est là qu'on a aussi fait les sacrifices depuis à Jérusalem, après ça, pour le péché du peuple. Donc, Dieu a racheté cette situation-là, mais il y a 70 000 hommes qui ont payé. Puis des fois, il y a des gens qui payent pour nos bonnes idées aussi. On a des familles, il y a des gens autour de nous. Donc, nos idées, il faut les amener à Dieu. Dire, recommande tes projets à l'Éternel et ils réussiront. Judas, c'est un autre bon exemple, une bonne idée, lui. Lui, c'est un homme d'affaires. Judas, il veut que les affaires avancent. Puis il trouve que Jésus, il est trop lent. Fait qu'à quelque part, il dit qu'il l'a vu faire des miracles. Il l'a vu continuellement faire des miracles. Fait pourquoi est-ce que Jésus ne ferait pas un miracle cette fois-là? Bien, je vais provoquer des choses pour que Jésus fasse enfin le miracle, parce qu'il était supposé de venir puis régner à Jérusalem. Là, c'était comme, il y a eu les palmes, là, le vendredi des palmes, là, où ce qu'on a dit, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et tout était là pour que Jésus fasse son royaume sur la terre, tu sais. Puis le texte biblique, il dit quoi? Pendant le souper, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein, le projet de le livrer. On voit ici, bonne idée, un projet, la parole de Dieu qui vient amener un discernement. Donc aujourd'hui, ce que j'ai voulu amener, c'est que si on est dans une guerre, puis ce n'est pas une guerre contre la chair et le sang, on n'entendra pas des voix audibles, mais on va avoir des pensées. Ces idées-là ne viennent pas toujours du malin. Puis là, on ne part pas à paranoïer, dire le diable est partout. Des fois, on n'a pas besoin d'aide. On est juste, nous autres, on est capable de juste s'égarer. Hein? Par contre, de penser que le malin n'est jamais là, c'est un problème. Même dans la maladie mentale. Pourquoi? Parce que dans la maladie mentale, Satan voit la faiblesse. Puis un ennemi, bien, ça attaque les plus faibles aussi. Fait que des gens qui ont de la misère avec leurs pensées, bien, ils sont encouragés à comprendre combien Dieu les aime pour réfugier leurs pensées, surtout si c'est des brebis faibles, des gens plus faibles. Donc, on voit ici encore une bonne idée, un bon projet. Bien, lui trouvait que c'était un bon projet. On a vu que la guerre aujourd'hui n'était pas contre la chair et le sang. Des fois, ça va être juste tu te traites des noms. Tu t'abaisses. Tu te dévalues. Puis peut-être, oui, ça vient de l'enfance, mais le diable, lui, s'il voit que tu fais ça, il va juste pousser là-dessus un petit peu plus. Parce que la Bible appelle le diable l'accusateur des croyants. Donc, ce ne sont pas des voix audibles qu'on entend, mais on a des voix aussi qu'on entend, puis on doit se poser la question, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est la voix de mon ennemi là, qui parle? Ou, ben non, c'est un mensonge. Donc, c'est des pensées. Donc, la liberté se trouve beaucoup au niveau des pensées. On a vu trois choses. Hein? Ça, tu peux faire 9, enter. À revenir sous le diaporama, faire 9, enter. Donc, la liberté en Christ, elle vient comment? Elle vient en plaçant les priorités aux bonnes places. Puis, le problème, c'est qu'il dit, ils ont le cœur endurci, puis il dit, même lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, le voile n'est pas enlevé. Et le texte dit, et c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, la priorité, c'est quoi? La priorité, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Puis lui, 9 enter, c'est-tu là que ça te mène, 9 enter? Tu fais 9 enter, ça ne marche pas? OK, parce qu'on est dans un diaporama, OK. Good, OK. Donc, ce qui arrive, c'est que puisqu'il y a des forteresses qui sont venues toutes s'installer puis que je ne suis pas capable de donner ma vie à Dieu, la seule chose que je peux faire, c'est « Seigneur Jésus, sauve-moi ». Et c'est là le passage qu'on a eu, il nous a délivrés des ténèbres et il nous a placés dans le royaume de son Fils. Hein? Donc, lui, en devenant le premier, Jésus dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez libres. » Donc, je ne peux pas m'affranchir de ça. Il faut que ce soit Christ qui devienne mon sauveur. Qu'est-ce qu'il a fait? Mes péchés m'ont amené une condamnation entre Dieu et moi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui il est? Bien, c'est Dieu qui est venu sur la terre, mais lui, il n'a jamais péché. Et qu'est-ce qu'il fait? Sur la terre, il vient et il prend mon péché et il se fait punir à ma place pour que je puisse recevoir la vie éternelle, le don de la vie éternelle. Puis, quand je vais mourir, je vais aller au ciel avec Dieu parce que mon jugement va déjà avoir eu lieu. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux pour qui que Christ a payé pour eux, puis qui ont accepté le paiement. Ça veut dire que la dette, il part sans payer. Et il y a ceux pour qui Christ est mort, mais qui ont refusé que ce soit lui qui paye la dette. Fait qu'ils disent, ben moi, je suis une bonne personne, Dieu devrait me laisser rentrer, tout ça. Ils n'ont pas accepté le Sauveur. Hein? Mais Christ est mort aussi pour ceux-là. Donc, au surenregistrement aujourd'hui, puis chacun d'entre nous, la première chose pour sortir, c'est de mettre la priorité à la bonne place. La priorité, c'est d'accepter un cadeau gratuit. Il ne vient pas avec un échange. Il ne vient pas en échange d'une bonne vie. Il ne vient pas en échange que tu vas commencer à aller à l'église, tu vas commencer à lire ta Bible, donner de l'argent, faire quoi que ce soit dans le monde. Il vient juste parce que tu dis, je veux avoir le cadeau de la vie éternelle. J'accepte que Jésus-Christ soit mort pour moi. Ça, c'est la priorité numéro un. Hein? C'est le commencement d'une vie avec Jésus-Christ. Et lui, s'il nous affranchit, il va vraiment nous rendre libres. Après ça, ça va être à moi de rester libre. Comment je vais rester libre? Je vais rester libre en soumettant mes projets à Dieu pour que mes priorités soient toujours de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Hein? Comme ça, je ne me mettrai pas moi-même dans des barricades. 21, enter. C'est le mot repentance que tu devrais trouver, puis c'est pas grave si tu l'as. C'est de rester dans la parole. Écouter la parole, puis de devenir de plus en plus libre. Puis, une autre façon de sortir de vos barricades, si peut-être que vous êtes piégé au niveau de la convoitise, c'est de couper les opportunités qui font que je vais combler mon vide en dehors de ce que Dieu a permis. C'est de les couper, ces choses-là. Aller chercher de l'aide des fois. Puis c'est de croire que Dieu est meilleur que ces opportunités-là. Puis attendre patiemment que Dieu comble ce vide-là qui est dans mon cœur. Puis ainsi, je vais trouver la liberté. Amen. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour la liberté qu'on a. Merci que tu nous as transférés d'un monde de ténèbres, Seigneur Dieu, puis que, à première vue, le monde n'a pas de l'air ténébreux, parce que, à cause de la paix, à cause des finances, à cause de, qui fait bon vivre au Canada. Mais Seigneur, plus qu'on s'approche, moins qu'on voit qu'il y a de la place pour Jésus, puis pour l'obéissance à la Bible. On s'aperçoit que tu as été rétréci à un petit coin, il n'y a même plus de cours de religion dans les écoles. On a rétréci l'ouverture par laquelle on pourrait voir la lumière. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à marcher comme des enfants de lumière dans ce monde de ténèbres. Aide-nous, Seigneur, à mettre nos priorités aux bonnes places, puis à placer toi en premier. Parce que c'est par toi que le monde a été créé, Seigneur Jésus, et c'est pour toi qu'il existe, tu nous dis dans Colossiens 1,15. Tout existe par toi et pour toi. Tu es la lumière qui est venue dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Mais les hommes n'ont pas voulu de ta lumière. Puis c'est triste, mais même chez les croyants, tu es obligé de cogner à la porte de ton église dans Apocalypse 3,20. C'est triste. C'est ton église, puis tu cognes pour pouvoir rentrer. Hey, ça fait dur, mon Dieu. Ça fait dur, Seigneur. Seigneur, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans ma vie. Tu es bienvenu pour être mon maître. Tu m'as dit dans Apocalypse 3,20 que tu cognais à la porte, puis que si on ouvrait, tu souperais avec nous et nous avec toi. Seigneur, permets qu'à l'église Grâce et Vérité, tu ne sois pas dehors, mais bien au centre. C'est pour ça qu'on va prendre le repas du Seigneur aujourd'hui, pour se rappeler que tu n'es pas un accessoire qui manquait dans notre vie, mais par ton sang, tu as racheté des hommes et des femmes. Puis par ton sang, on vit pour toi, Seigneur. Fait qu'on va prendre les éléments ensemble, on va chanter un dernier chant, puis on va prendre les éléments, on va arrêter l'enregistrement. Fait que le pain symbolise le corps, puis le vin symbolise le sang. Ça ne deviendra pas le pain, puis ça ne deviendra pas le sang de Jésus-Christ quand on va le prendre. Jésus nous a dit, par contre, qu'on devait le prendre à chaque fois, aussi souvent qu'on peut. Nous, on le fait une fois par mois. Il n'a pas dit aussi souvent qu'on peut, il a dit, faites-le jusqu'à ce que je revienne. Nous, on le fait une fois par mois. Puis, si vous reconnaissez que Jésus-Christ est mort sur la croix puis a été puni pour vos péchés, puis vous voulez vivre dans une vie d'obéissance, prenez-le. Sinon, abstenez-vous, attendez un petit peu. Fait qu'on va chanter ensemble.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.